Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Bon, élection en France, deuxième tour, victoire d'Emmanuel Macron. En gros, 58% pour le président sortant, 42% pour Madame Le Pen. Depuis hier, on dit que la France est divisée, fracturée. Qu'est-ce qu'on doit comprendre des résultats, Luc?
Bon, d'abord, c'est une victoire prévisible. Hein. On en avait pas mal parlé, les sondages l'indiquaient, mais aussi des éléments de campagne chez Le Pen qui rendaient difficile d'envisager une victoire. Bon, l'emprunt à une banque russe pour son parti, le soutien de l'hydrochloroquine qui s'est avéré être pas un médicament permettant, mais un soutien agressif, son amitié avec Vladimir Poutine. Si elle a fait 42 pour 41,5 rendu un matin, là, 41,5% avec ça, ça veut dire qu'elle vaut 47, 45, 46, 47 le minimum, là. Et ça veut dire que la France est en colère, est très, très, très en colère. Le 47% des gens qui votent pour quelqu'un qui, à première vue, a des certaines propositions exubérantes en matière d'immigration, peu applicables, à la peine applicables, dans d'autres domaines aussi. Alors, surtout que ce vote-là, il est concentré. Il est concentré dans des régions. Le Nord, le Sud aussi, la couronne Sud, puis une grande partie du Nord. Mais en tout cas, il est concentré en dehors des grandes villes. Et ça veut dire que dans certaines villes de province, de région, on a 60-70% d'appui à Le Pen. Dans certains cas, les journalistes se sont précipités sur des villes qui avaient donné 100% d'appui, là, des petits villages, là, où il y avait seulement une personne qui avait voté ou deux qui avaient voté pour Macron. Mais ça, c'est un message extrêmement fort. Il y a des mots pour parler de ce message-là qui correspondent juste à la politique française. Le malaise, la désillusion, la montée de l'insécurité. C'est un triptyque. Il y a un triptyque de circonstances et de causes qui ont l'air d'être indétricotables. Donc, pas de perspective de mobilité, d'une part. Pas d'enrichissement possible d'une génération à l'autre. Là, un truc qui échappe à ce scénario habituel-là, c'est qu'il commence à avoir un peu plus d'emplois. Mais pendant des années, pas de possibilité d'emploi dans certaines villes, dans certaines régions, pas de possibilité d'emploi important. Tu vas gagner le même salaire que ton père, tu vas faire le même salaire que ton père. Et avant, c'était acceptable parce que tu avais un État qui donnait des services à grandeur et tu avais des coûts qui changeaient jamais. Et maintenant, ces deux variables-là ont changé. Les coûts sont en train de monter partout. Et la diminution de service, elle est marquée. Et pas juste une diminution de service, des déserts de service dans certains cas.
Nathalie.
Ce que ce résultat annonce, selon moi, c'est qu'Emmanuel Macron ne l'aura pas facile. Il fallait voir l'énergie avec laquelle Marine Le Pen s'est exprimée devant ses militants. Là. De ce côté-ci de l'Atlantique, on aurait pu présumer qu'elle annonce son départ de la vie politique. Au contraire, galvanisée par les résultats, elle a dit « jamais je n'abandonnerai les Français ». Et malgré la division qu'on sent au sein de l'extrême droite, là, les Zemmour-Le Pen, au-delà de ça, ils sont galvanisés pour la suite, c'est-à-dire ce qu'on appelle en France le troisième tour, les législatives, pardon. Mais au-delà de ça, moi, ce que je retiens de la part d'Emmanuel Macron, c'est qu'il n'est plus le candidat de la continuité. Il est le candidat maintenant qui s'érige en réformateur. En fait, il n'aura d'autre choix que d'opérer une césure par rapport aux idées dont il a fait la promotion lors de son premier mandat. Et là, et en fait, il devra opérer une césure pour colmater la fracture qui gangrène la France de l'intérieur depuis maintenant des décennies. Il l'a dit, hein, je suis le président de tous les Français, de tous les Français, de toute la France. Pour le dire, il a senti le besoin de le dire parce que il était perçu comme le président des plus riches, de l'élite, des grandes villes, alors que Marine Le Pen, elle, faut voir, hein, où était le vote de Marine Le Pen, beaucoup sur les ouvriers, chez les ouvriers, chez les gens moins nantis. Ce vote m'oblige dans les années à venir à déclarer Emmanuel Macron. Et moi, je pense qu'il va aller plus loin, c'est son dernier mandat, que ce qu'il a promis. Exemple concret, les enseignants. Il a promis une augmentation de 10 % des salaires des enseignants. Probablement qu'il va aller plus loin. Pourquoi? Parce que tu l'as dit, Luc, beaucoup de Français sont désespérés, désillusionnés. Alors, un de ses mandats, au-delà de toutes les promesses, c'est de redonner de l'espoir à la France, de la repositionner, certes, sur le plan international, à l'échelle, sur l'échiquier politique international en Europe, mais également à l'interne. C'est redonner confiance aux Français en la France et en ses capacités.
Mais il y a quelque chose qui m'a frappé hier. Ouais. Certains enjeux sont les mêmes qu'ici, là. C'est-à-dire que, oui, que ce soit sur le pouvoir d'achat, que ce soit sur l'âge de la retraite,
santé.
La santé, puis bon. Mais les vieux partis, partis socialistes, puis ces partis-là sont éliminés.
Ouais, oui, 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 oui.
Puis ceux qui restent sont des nouveaux. Ils représentent des idées de bon, Macron plus à, disons, centre, centre droit peut-être, là. Le Pen plus à l'extrême droite, mais on a la même réalité ici. T'as Legault qui est au centre-droite, à gauche, Québec solidaire.
Mais tu sais, l'État...
Mais le PQ puis le Parti libéral sont KO.
Mais le PQ puis le Parti libéral, comme le Parti socialiste en France, représentent cette grosse machine d'État qui est capable de livrer des services mur à mur. De la moquette pour tout le monde, tu sais. On va avoir de la santé dans toutes les régions, avoir l'électricité dans toutes les régions, avoir du logement dans toutes les régions, mur à mur. Mais le mur à mur fonctionne plus. Le mur à mur est plein de trous ici comme ailleurs, avec notamment la pénurie de main-d'œuvre, mais aussi parce que jamais on était capable de faire du mur à mur. C'était une illusion, puis elle ne marche pas, cette illusion-là. Puis en France, pareil avec le Parti socialiste.
Mais moi, je vois une différence importante, Paul, entre la France, la situation politique française et le Québec. La France est divisée. Si vous prenez le nombre des abstentionnistes, les abstentionnistes, Macron et puis Le Pen et Mélenchon, on se rend compte que c'est presque, mettons, un quart de chaque. Là, OK, je simplifie, là, mais ça ressemble à ça. Au Québec, le dernier sondage léger, interprété par, entre autres, Philippe Gifournier sur Québec 125, demain matin, il y a une élection, tenez-vous bien, la CAQ remporte 99 sièges sur 125. Le Québec est moins fragmenté, oui, et plus égalitaire que la France. Et ça se reflète sur le nombre de sièges que demain matin pourrait espérer prendre François Legault. Imaginez 99 sièges sur 125. Moi, c'est presque quoi, une monarchie, c'est une hégémonie sur le plan politique. Il y a des enjeux qui sont similaires, mais sur le plan politique, je trouve qu'on est loin de la France.
Je voudrais faire du millage sur ce que tu viens de dire, Nathalie. C'est vrai, il y a une différence importante qui est majeure, c'est l'immigration. Incroyable de constater qu'il y a deux fois moins d'immigrants en France qu'au Canada. Deux fois moins. Et pourtant, tu as cette impression-là qu'il y a une immigration que tu ne seras jamais capable d'intégrer à la France. Pourquoi?
Mais ils sont deux fois plus nombreux, Luc, qu'en France.
Oui, d'accord, mais proportionnellement, là, en ratio, c'est 10 % nous, c'est 20 % Et pourquoi on a cette impression-là que d'un rejet de l'immigration si puissant qui est porté par Le Pen, alors qu'on ne voit pas ici? C'est parce que ce n'est pas un rejet de l'immigration. C'est une ghettoisation que la France a réservée à tous ces gangs petits, tous les gens qui sont pas dans l'ascenseur de la mobilité sociale qui mène généralement, en plus c'est géographiquement centralisé vers les grandes villes, tous les gens qui sont en dehors de cet ascenseur-là, de ce courant d'air qui monte vers le haut, ils sont laissés pour compte. Et là-dedans, il y a les immigrants. Mais il y a aussi les Français, les gangs petits, les petits ouvriers, les gens qui sont sur le SMIC, salaire minimum, ou des retraités qui sont sur une retraite fixe. Et tous ces gens-là, Le Pen a commencé à comprendre que ces deux groupes-là font partie du même problème. L'immigration et les gangs petits.
Ben, en fait, elle a aussi même immigration et sécurité. Elle dit il y a une agression en France à tous les 44 secondes et la situation est imputable, selon elle, à l'immigration puis aux immigrants, aux sans-papiers, etc. C'est un raccourci incroyable qui contribue à susciter la colère en face vers les immigrants. Et je pense qu'on ne verra jamais ça au Québec, là, je crois. C'est sûr qu'on a des partis politiques, entre autres, comme celui d'Éric Duhaime, qui dit qu'on devrait, bon, en matière d'immigration, on devrait peut-être en faire un peu moins, mais on n'est pas dans ce genre de discours, là.
Non, mais par contre, si on continue, on va parler dans le sujet suivant, là, si on continue avec le taux de décrochage qu'on a dans le nord de la ville, tu vas voir qu'on va aussi avoir des ghettos. Ça va finir par marcher ici aussi. La recette va finir par marcher aussi.
On va y venir. Juste vous dire, parce qu'on a parlé du taux de participation ou d'abstention, là, c'est selon, là, à 28 %. Juste rappeler qu'au Québec, à l'élection du 1er octobre 2018, le taux de participation était de 66 %.
Vois-tu?
Fait que ça n'a pas voté fort.
On n'a pas de leçon à donner. Ouais.
Mais en France, ce qui est frappant, Paul, c'est que les abstentionnistes sont fiers de dire qu'ils sont abstentionnistes. Oui. En fait, c'est presque un mouvement, l'abstention en France, ce qui n'est pas le cas encore au Québec.
Non. Oui.
Je voulais juste terminer avec le gars qui a rédigé le discours ou la fille qui a rédigé le discours de Macron hier. Là. Moi, je pense qu'il devrait rédiger ou il devrait rédiger des discours pour tous les présidents suite à des élections. Tu sais. Ça serait... on va donner une impression d'équilibre que vos politiques sont impossibles d'atteindre. Mais quand il dit « Cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève », quelle humilité. Il vient de gagner. Là. « Cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève ». Wow! Puis après, il dit « J'appelle les citoyens à être bienveillants et respectueux dans un pays pétri de tant de doutes, tant de divisions. » Alors, est-ce que Macron est capable de livrer l'équivalent de ce que le discours a livré, c'est-à-dire « je vais changer »
C'est la grande question.
Bonne question. On fait une pause pour retour, on va parler d'éducation, justement.
Recule un peu, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct. L'assurance simplifiée.
La commission Normando-Ferrandaise.
Alors, dans une entrevue à la presse, Grégory Richard a lancé un cri du cœur pour améliorer le système d'éducation au Québec. On l'a reçu tantôt. Beaucoup de propositions, entre autres, séparer les gars des filles. Parce que c'est pas le même niveau de maturité, puis c'est pas la même façon d'apprendre. Nathalie.
Tu as la raison, je dirais en partie, puis je tiens à saluer son franc-parler. C'est rare que les personnalités publiques, en particulier celles du milieu culturel, osent faire ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce que ça peut susciter de l'approbation, mais également de la colère et des objections et des blâmes également, mais il n'a pas peur d'assumer ses convictions et de les partager. L'État à ton micro, j'ai écouté l'entrevue qu'il t'a accordée, Paul, puis tu le sens extrêmement passionné. Moi, en fait, il a raison, je dis en partie, parce que on peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain lorsqu'on parle du système de l'éducation. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on peut améliorer, mais tout n'est pas que raté dans notre système d'éducation. On fait des bons coups, entre autres en matière de diplomation. Là, on pourrait faire mieux, mais c'est pas vrai que le Québec, là, est un cancre en matière de diplomation. En matière de décrochage scolaire, c'est vrai qu'il y a encore trop de garçons qui décrochent par rapport aux jeunes filles. En matière de diplôme également, il y a plus de jeunes filles qui terminent leur secondaire, par exemple, avec un diplôme, alors que les statistiques ou les données révèlent que il y a moins de garçons qui sortent avec leur diplôme. Alors oui, est-ce qu'on peut changer les choses? La réponse, assurément oui. Et ce que j'aime, c'est qu'il nous invite à débattre de certaines questions, la gratuité, entre autres, la façon, les méthodes d'enseignement qui sont utilisées. Alors moi, je pense qu'il y a une belle fenêtre qui nous est proposée par Grégory Richard, et je crois qu'on devrait saisir effectivement la main tendue pour qu'on discute de certains enjeux qui se demeurent toujours, malheureusement, depuis toutes ces décennies encore d'actualité.
Juste une parenthèse avant que Luc enchaîne. Bénédicte est en studio. Il y a une opération policière qui est en cours là, dans le bout de Saint-Lin.
Et qui risque de durer pendant peut-être un petit bout aujourd'hui. Tout ça, ça a débuté vers 1h30 hier. Dans le fond, les policiers ont remarqué un véhicule qui avait les lumières fermées. Et là, courte poursuite qui s'est enclenchée. On parle d'une poursuite de moins d'un kilomètre. Et ça s'est arrêté sur le chemin Saint-Isidore à Saint-Lin. La personne qui était au volant s'est stationnée dans une entrée privée, elle s'est mise à courir, elle est débarquée et a foncé dans l'eau, dans le fond, dans la rivière. Donc là, il y a des recherches qui sont en cours. On n'a pas encore localisé la personne, possiblement que c'est un homme dans la vingtaine, mais là, des recherches assez intenses. Là, l'hélicoptère, la Sûreté du Québec, les plongeurs, on a fait les berges. On ne sait pas si la personne est toujours dans l'eau, c'est ce que ça laisse présager. Et si c'est le cas, ben possiblement qu'il y aura une enquête du bureau. Il y aura une enquête du bureau des enquêtes indépendantes parce que ça se passe lors d'une opération policière.
Très bien. Luc, à ton tour.
Ah, que j'ai aimé la sortie, la générosité, la passion, la vision de Grégory Charles. Il n'y a aucune des solutions qu'il proposait qui m'a touché parce que j'ai trouvé un petit peu éclectique. Mais, cette insistance pour dire « Réveillez-vous, Calvin, c'est le problème numéro un du Québec, c'est de toute société, mais en particulier du Québec. Le principal, le taux de décrochage chez les jeunes garçons, c'est le principal problème qui génère de la violence à long terme, du chômage, de la santé mentale, de l'itinérance, de la consommation de drogue dure, de l'alcoolisme. Tout est lié à ça, en partie, du moins, c'est une mauvaise base pour partir avec une incapacité, une inemployabilité, une incapacité de s'intégrer dans la société. Et sa passion, c'est de ça qu'on a besoin. Moi, je remarque là le fait qu'il nomme les garçons. Et ça, Regardez comment on a fait le chemin sur les femmes dans les dernières années. Là. On a un vocabulaire pour parler des femmes. On parle du plafond de verre, des femmes, pour parler du déficit d'emploi envers les femmes. On a parlé du plafond de verre, de l'iniquité salariale, de l'accession des femmes aux programmes scientifiques. Après ça, pour la question de la violence, on a dit ça nous prend des tribunaux spécialisés. Il y a un lobby pour dire on va pas laisser un groupe de côté. Ce lobby-là, là, on a besoin du même lobby pour les jeunes garçons et en particulier les jeunes garçons noirs à Montréal, dans l'est de la ville, dans le nord et dans l'est de la ville, les jeunes garçons noirs qui, dans certaines écoles, quand ils sont en troisième année, en quatrième année, c'est déjà terminé. C'est déjà trop tard. Ils vont traîner dans les corridors. Ils vont traîner dans les fonds des salles de cours et on ne s'en occupe pas. Et après ça, on se demande pourquoi on a un problème de gang de rue à Ville-Saint-Michel, pas à Montréal-Nord. Ça fait des années que ce jeune-là traîne dans le fond de la salle de classe puis que personne s'en occupe. Puis là, il est temps d'y aller vers eux avec des nouveaux moyens, avec plus d'argent, avec de la passion. Moi, j'arrête pas de le répéter avec ce micro-là, mais moi, je suis pas Grégory Charles. L'entendre de la bouche de Grégory Charles, ça m'a tellement fait chaud au cœur. Go, Grégory, on a besoin de toi. Lâche ta job de chanteur. Ah ouais, Grégory, si fonce, t'as raison, 100%.
Ouais, ben fonce à 100%, mais en même temps, Luc, il y en a plein d'enseignants qui sont aussi passionnés que Grégory Charles et à chaque jour tentent de faire la différence oui. dans leur salle de classe. Moi, ce qui est fascinant, c'est combien de rapports sur le décrochage scolaire? Combien, hein? Un après l'autre, des grandes consultations nationales et on a l'impression qu'on n'a pas encore trouvé ce qu'il fallait, la recette, là. Tu sais, on n'a pas encore réussi à appuyer sur le bon bouton. Ce que Grégory Charles dit, ça nous prend plus d'asymétrie dans notre réseau d'éducation, dans la façon dont on enseigne. Il questionne les méthodes d'enseignement. J'ai absolument trouvé formidable lorsqu'il déclare que apprendre la langue par l'histoire des mots, c'est plus intéressant que de savoir pourquoi un mot finit par un X plutôt que par un S. Il y a probablement qu'il y a plein d'enseignants qui font ça au quotidien, mais le ministère d'Éducation, avec une approche basée sur la réussite, la performance, évacue un nombre trop important d'élèves, entre autres les jeunes garçons, qui ne se retrouvent pas dans ce système d'éducation. Combien de fois on l'a dit? À un moment donné, on peut-tu passer à une autre étape? Et quand Grégory Charles dit qu'il faut faire de l'éducation la priorité absolue, ben non seulement sur les objectifs qu'on poursuit, sur les résultats qu'on obtient, mais également sur, par exemple, la qualité des bâtiments qui accueillent nos élèves. La vérificatrice générale du Québec déclarait en 2019 le constater que 54% des bâtiments de l'ensemble des commissions scolaires qui étaient en mauvais état ou en très mauvais état, puis ajoutez à ça souvent des écoles qui dépassent leur capacité d'accueil. Tu sais, c'est comme, vis-toi dans un 3,5 demi-sous-sol, pas éclairé, qui pue, puis qui est plein de champignons. Probablement que la vie va être difficile puis tu vas avoir le moral d'un talon. Ben, je fais la comparaison même la même. Tu sais, ouais. Ben, absolument, absolument.
Mais moi, j'aimerais parler d'un autre aspect, c'est l'aspect quand il a dit, on devrait tout enseigner à travers l'histoire, on devrait leur raconter des histoires. Moi, j'ai tellement compris ce qu'il voulait dire. Peut-être qu'on ne va pas tout enseigner à travers l'histoire. Mais ce qu'il cherche, c'est une manière d'accrocher ces jeunes-là à des rêves. Ils n'ont plus de passion. Ils n'ont pas de passion. Ils sont là, puis ils ne comprennent pas ce qu'ils font là. On n'a pas fait de lien entre la vie possible pour eux et ce qu'ils sont en train d'apprendre. Et ils l'apprendront pas. Là. Ce lien-là est brisé. Je vais vous raconter une petite histoire, une petite analogie rapide. J'habitais à Paris. J'étais tellement crampé de rire quand il y avait des Américains qui arrivaient. C'est très, très fréquent. Quand ils n'étaient pas compris, parlant en anglais à un Parisien, puis quand ils n'étaient pas compris, ils parlaient plus lentement puis plus fort. I would like to see... Ouais, mais Chris, ils parlent pas la même langue que toi, tu comprends-tu? Tu peux bien le dire lentement, tu peux bien le dire plus fort, tu comprends pas. Mais c'est pareil. Quand tu dis à un jeune que un polygone, parallépipède, ben les deux lignes, il te comprend pas, tu peux le dire plus lentement, tu peux le dire plus fort, il comprend pas. Il comprend pas à quoi ça sert. Il comprend pas c'est quoi sa vie. Il comprend pas où il en est rendu. Puis Grégory Charles, il nous dit, faut aller les passionner, faut aller chercher une histoire dans laquelle, tu sais, comme Harmonium, il faut trouver une histoire, puis ça presse, je me rappelle plus
à
la
raconter,
chanson.
Ouais, ah ouais, c'est
une histoire
ça.
À raconter. Il faut trouver l'histoire, le script qui fait que cet enfant-là, oui, on va l'ancrer dans la vie. Et une des solutions qu'il dit, c'est, hey, pourquoi est-ce qu'on ferait pas des camps de vacances avec, par exemple, moi, en nous, là, l'école commence en nous, moitié de la journée camp de vacances, moitié de la journée école, mais on amène ces jeunes-là dans la ville, on les amène dans la campagne, on les fait comprendre, prendre conscience de l'univers qui est autour d'eux, puis en quoi l'école peut les aider à s'ancrer dans cet univers-là.
Mais c'est ça qui est intéressant dans son approche. Par exemple, il dit en janvier, on n'envoie pas les élèves à l'école parce qu'ils ont fêté, puis la vie était dure en décembre. Et moi, j'entends déjà les hauts cris des parents dire, voyons donc. En fait, ce qui nous appelle, c'est, oui, à chambouler notre façon d'enseigner, mais en même temps, notre approche, de revoir notre approche, notre relation à l'école et d'avoir une école qui est tournée vers les besoins des enfants. Mais en même temps, Luc, quand tu dis ça, il faut éviter de généraliser. C'est pas tous les enfants qui sont malheureux à l'école. Il y en a qui s'en sortent très bien. Par contre, il faut focaliser davantage sur ceux et celles qui ne se retrouvent plus à l'école.
Très bien. Juste une petite blague que j'ai entendue hier sur le plateau de France 2 pendant le dépouillement du vote et les analyses, quand l'animatrice s'est tournée vers un invité en disant « Je vous donne la parole. » Pardon, « Je vous donne la parole.
» Juste en France, only in France.
Oui, oui, je vous donne la parole. J'ai trouvé que ça avait l'air de quelqu'un qui avait hâte d'aller prendre un verre et que l'émission se termine. Bonne journée, on vous retrouve demain.
C'est 23.
Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.